Ce samedi, 70 ans se sont écoulés depuis la mort non élucidée de Jan Masaryk, fils du premier président de la Tchécoslovaquie indépendante, diplomate à Londres dans l'entre-deux-guerres et ministre des Affaires étrangères du pays au moment de la prise du pouvoir du Parti communiste. Jan Masaryk a été retrouvé mort au pied de son appartement de fonction au palais Tchernine le 10 mars 1948. Retour sur un destin malmené par l'histoire avec Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Masaryk en Tchécoslovaquie, c'est plus qu'un nom, c'est un symbole. Pour preuve, lors de l'investiture de Miloš Zeman jeudi au château de Prague, c'est sur la table de travail d'origine du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk que le chef d'État réélu a solennellement paraphé son serment présidentiel. Une façon de s'inscrire dans une continuité qui, à défaut d'être idéologiquement réelle, est un signe fort envoyé à la population tchèque. Aujourd'hui encore, près d'un siècle après sa mort, l'aura de Tomáš Garrigue Masaryk est encore forte, et ce, quand bien même nombreux sont ceux qui déplorent un état moral de la société loin des idéaux massaricains. Moins connu que son père et ayant pourtant aussi marqué l'histoire du pays, Jan Masaryk a quelque peu souffert de la malchance des fils d'eux. Ce nom a dû peser plus d'une fois lourdement sur ses épaules au cours de sa carrière de diplomate, comme le souligne l'historien Jan Němeček.
Il a toujours vécu dans l'ombre de son père, dans l'ombre de la stature de son père. Donc il est impossible de comparer l'importance de Jan Masaryk et celle de Tomáš Garrigue Masaryk. Ce dernier a été une icône de l'État tchécoslovaque. Jan Masaryk, c'est une autre question. Bien entendu, son père s'est efforcé de faire en sorte qu'il marche sur ses traces. Mais dans une certaine mesure, ce n'était pas possible. D'abord, il y avait un certain traumatisme par rapport à la stature de son père, par rapport aux tâches qu'il était censé remplir, par rapport au fait de s'inscrire dans la tradition massarykienne. Donc Jan Masaryk a reçu en héritage un rôle énorme à remplir. Après, on peut tout à fait discuter du fait de savoir s'il l'a rempli ou non et comment.
Jan Masaryk est né en 1886. Pendant la Première Guerre mondiale, il est au front dans le camp austro-hongrois, tandis que son père, en exil, s'active à l'étranger pour rassembler les diasporas tchèques et slovaques afin de promouvoir l'idée d'un État tchécoslovaque indépendant au sortir du conflit. Dans la petite république née des cendres de l'Empire austro-hongrois, Jan Masaryk va trouver une place de choix au sein des nouvelles équipes politiques en place. Il se tourne vers une carrière diplomatique, occupe un poste de chargé d'affaires aux États-Unis, puis est nommé ambassadeur à Londres en 1925. Alain Soubigou est historien spécialiste de Masaryk père. Il note le caractère inattendu de cette carrière alors que Jan Masaryk n'a ni la matureta, équivalent du baccalauréat, ni un titre de docteur en droit.
C'est un peu inespéré à vrai dire parce que si l'on suit ses études pire que moyenne avant la Première Guerre mondiale, de se retrouver dans les services diplomatiques, c'est un peu inespéré. Comme vous dites, en termes de génération, il est jeune. Il est né en 1886, c'est-à-dire qu'il a 2 ans de moins que Benesch, qui était lui-même très jeune, ministre des Affaires étrangères au sortir de la Première Guerre mondiale. Disons qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dès lors que les fonctionnaires austro-hongrois ont quitté Prague et ont laissé toute une série de fonctions sans titulaire, d'une part, et d'autre part, la jeune République, qui fait transformer Prague de ville de province en capitale, a besoin de compétences un peu partout dans le monde pour la représenter dans des ambassades. Et c'est dans ce courant d'air que s'inscrit la trajectoire de Jan Masaryk.
Nul népotisme, selon Alain Soubigou, dans ses nominations, mais plutôt la reconnaissance d'un certain talent de caractère.
Et finalement, dans la partie, je dirais, mondaine de la fonction d'un ambassadeur dans l'entre-deux-guerres, il faut le dire, Jan Masaryk a été excellent à Londres.
Il est d'ailleurs apprécié dans la population pour son charme et son humour, sa compréhension d'autrui. Son caractère peu conventionnel, ses talents de pianiste, d'orateur et de mondain forgent sa réputation sans en faire pour autant un dilettante. Cette place de choix dans la conscience des Tchèques et des Slovaques sera d'ailleurs renforcée pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à ses discours de soutien et d'espoir prononcés depuis Londres vers la Tchécoslovaquie occupée. Nommé en 1940 ministre des Affaires étrangères du gouvernement tchécoslovaque en exil, Jan Masaryk déploie tout son talent au service de la nation, comme le relève l'historien Jan Němeček.
Jisté je, že pro běžný lid.
Une chose est sûre, pour le commun des mortels, Jan Masaryk a été une véritable icône à certains moments de sa vie. Il l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est adressé aux habitants de la Tchécoslovaquie occupée via les émissions de la BBC. L'impact de ses messages était énorme. Donc dans ce sens, c'était une véritable icône. Ce n'était peut-être pas un homme d'État, mais il était un orateur né. Il savait parler de telle façon à toucher et à être compris d'un large public.
Après la guerre, il reste le chef de la diplomatie tchécoslovaque au sein du gouvernement, mais c'est un contexte tendu qui l'attend en Tchécoslovaquie, où le parti communiste, bénéficiant de l'aura de son rôle dans la résistance et du rôle de libérateur de l'Union soviétique, monte en puissance. Au mois de février 1948, le coup de Prague scelle le destin de la Tchécoslovaquie dans la sphère d'influence de Moscou. L'héritage de Masaryk, fondateur d'un pays démocratique aux valeurs humanistes tournées vers l'Occident, déjà ébranlé par l'invasion et l'occupation nazie, se disloque définitivement avec l'arrivée des communistes au pouvoir. Peu de temps après le coup de Prague, Jan Masaryk est retrouvé mort au pied de son appartement de fonction au palais Tchernine, un décès mystérieux dont la cause n'a jamais été vraiment élucidée, comme le rappelle Alain Soubigou.
La version communiste, c'est une version. Il y a la version de la police en 2003, enfin après plusieurs allers-retours, plusieurs variantes des expérimentations de l'Académie des sciences, des physiciens qui ont essayé de comprendre la trajectoire du corps, etc. etc. Je crois qu'en fait, on ne saura probablement pas la vérité définitive au-delà d'un rapport de police qui dit un petit peu ce qu'il veut. Je crois que l'interprétation, elle se fait de manière plutôt philosophique. De deux choses l'une. Ou les communistes ont soulevé, parce que la fenêtre était assez haute, soulevé le corps de Jan Masaryk, vivant ou pas, et l'ont poussé par-dessus. Et c'est une horreur. Ça, c'est la première hypothèse, un assassinat direct. Ou, deuxième hypothèse, Jan Masaryk, soit sous la menace immédiate de gens qui frappent à sa porte, de gens qui lui voulaient du mal à la porte de son, de son appartement de fonction au ministère des Affaires étrangères, s'est jeté, ou bien en présence même des personnes menaçantes, ou sous la pression psychologique tout simplement. Il s'est jeté, c'était d'ailleurs l'hypothèse de son dernier secrétaire, Antonin Soum, qui disait qu'il avait voulu attirer l'attention de l'Occident sur ce qui était en train de se tramer par les communistes dans le pays. Et cette deuxième hypothèse d'un suicide n'est pas plus honorable pour les communistes. La pression psychologique a été au moins aussi puissante, si c'est cette hypothèse, que des mains assassines qui l'auraient poussé. Donc vous voyez, suicide ou assassinat, je crois qu'aucune hypothèse n'est bonne pour les communistes de l'époque. Et je crois que le fin mot, on ne le saura jamais vraiment, il n'y a pas de preuve tout à fait décisive dans un sens ou dans l'autre.